Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Et le témoin de ce vendredi, Henri Pierre, jeudi face à l'événement.
Que ce soit pour faire connaître votre marque, pour communiquer sur des dates importantes ou pour développer l'enthousiasme de vos équipes, dans une entreprise, les événements jouent un rôle très important. Cet événement se doit de créer des effets émotionnels et d'être impliquant. Il faut avoir l'objectif de faire vivre une histoire, il faut créer un agréable moment avec des temps forts porteurs de messages. Quand l'événement est en phase avec son public, vous accédez à un niveau émotionnel premium qui est l'enchantement.
Ah, la suffisance des concepteurs d'événements, on dit maintenant events, qui s'en croient les maîtres. Un grand journaliste intellectuel, Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, disait au contraire que l'événement devait être notre maître intérieur. Ah, l'insuffisance des journalistes, faute de savoir guetter ce qui fait signe en silence, ils créent de toutes pièces des journées historiques tous les quatre matins. En même temps, sans eux, l'affaire Dreyfus et l'affaire Grégory n'auraient pas été des événements. Le rapprochement à un siècle de distance est fait à dessein pour indiquer que la succession des événements ne conduit pas nécessairement au progrès. Ah, l'incertitude des historiens. Certains attendraient qu'ils flèchent le passé, pour employer encore un mot à la mode. La tentation leur est d'ailleurs venue d'organiser une science des événements qui les aurait coulés dans une continuité telle qu'ils auraient presque pu être effacés. Mais l'événement surgit toujours, et voilà l'historien interrogé sur son intelligibilité. De quelle source enclose dans le passé a-t-il pu jaillir? Mais ce qui va compter le plus, c'est ce que l'événement va devenir. Sans une infusion dans le temps, il n'y aurait pas d'affaire Dreyfus, pas d'affaire Grégory. Pardon de faire encore le rapprochement. Dans cette hypothèse, l'histoire change d'objet. Son objet n'est plus le passé, mais le temps. Il ne faudrait plus dire la marche de l'histoire, mais la marche du temps, mieux peut-être, la marche des temps.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
On est toujours contredit. Bonjour Henri-Pierre Jeudy.
Bonjour Jean Lebrun.
Bah, c'est la tâche qu'on attend de vous, de nous interroger, nous autres historiens ou amateurs d'histoire, sur l'événement. Alors pour ça, vous êtes armés, vous êtes philosophe, vous êtes sociologue. Ce sont deux disciplines qui ne cesse de poser des défis à l'histoire. Mais comment vous présentez encore éditeur? Vous êtes promeneur, flâneur, et pas seulement autour des châteaux, dans les bistrots tout aussi bien.
Oui, ben j'aime bien les bistrots, c'est là où j'apprends beaucoup de choses sur la vie, comme tout le monde d'ailleurs.
Et puis alors, il n'y a pas un jour où vous n'écriviez un nombre constant de lignes, j'imagine?
Bah depuis l'âge de 15 ans, oui, j'écris pratiquement tous les jours. Je peux m'interrompre de temps en temps, bien sûr, mais oui.
Il vous est arrivé de vous interrompre en novembre 2015. Opération cardiaque, sérieuse.
C'est-à-dire qu'en fait, je savais que j'avais quelques ennuis, qui avaient pris d'ailleurs un très beau terme, angore, angoisse permanente à la poitrine. Et que je finirais par être obligé de me faire opérer, mais j'avais pas trop envie de le faire quand même.
Vous êtes sorti du temps suspendu, d'après l'opération, dans la nuit du 13 novembre au 14 novembre. Et vous êtes aperçu que les choses n'étaient pas tout à fait normales, qu'il y avait une agitation, mais contenue. Ici, le témoignage, on l'avait déjà diffusé dans une émission consacrée à chaque témoin compte, l'opération de collecte lancée par l'Institut d'Histoire du Temps Présent du docteur Pariente, urgentiste.
Je n'ai jamais entendu autant de calme alors qu'il y avait autant de gens dans les urgences. Je ne parle pas des soignants, je parle des victimes. On n'a absolument rien fait. Alors si, on a bombardé tout le monde d'antibiotiques et de morphine. Donc, effectivement, ils avaient pas mal. Enfin, moins mal. Donc, ça les aidait dès qu'ils arrivaient. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de discussion sur est-ce qu'ils ont mal ou pas. Mais les gens ne parlaient pas, parlaient peu ou pas entre eux, les victimes. Ils étaient sidérés, en fait. Une espèce de sidération. Et ils répondaient Il ne parlait que quand il répondait aux questions.
Et vous, vous revenez à la vie dans ces conditions-là autour de vous?
Oui, c'est-à-dire que j'étais sous les effets de la morphine.
Vous
et
aussi?
Donc, j'avais plutôt des hallucinations et j'étais fasciné par ce qu'on pourrait appeler un entrelac d'hallucinations. Je voyais mon propre corps mort, en fait, sur un plan oblique, comme ça, qui se promenait. Je me rappelle de cette image. Et peu à peu, j'ai entendu les infirmières qui parlaient, comme ça, assez nerveuses, inquiètes. Et c'est comme ça que, progressivement, l'événement du Bataclan est rentré, en fait, dans mon propre corps. Je peux dire qu'il est rentré dans mon propre corps parce qu'en fait, dans mes hallucinations, il y avait des analogies immédiates entre la poitrine qui venait d'être ouverte, comme si elle était criblée de balles, en quelque sorte. Et ces analogies, elles allaient être très vite. Et elles allaient d'autant plus vite que j'écoutais aussi le rythme des bribes d'informations par les voix des infirmières. Et donc, à un moment donné, je me suis associé complètement à l'idée d'avoir été criblé de balles par des rafales de Kalachnikov. Et puis, à d'autres moments, immédiatement après, je me prenais aussi pour un Superman et je voyageais dans le ciel pour aller sauver des gens qui, dans la rue, couraient dans tous les sens, etc. Donc, c'était évidemment une certaine puissance hallucinatoire qui me traversait, mais qui allait de l'événement à mon propre événement, en quelque sorte.
À votre expérience intime.
Oui.
Revenons un peu en arrière, à votre enfance, Henri Pierre Jeudy. Vous avez été élève au lycée Claude Bernard à Paris, et vous aviez la chance, en seconde, d'avoir pour professeur Monsieur Poirier. Monsieur Poirier, autant dire...
Julien Gracq. Oui.
C'est en 1951 que les élèves du lycée, quand il a reçu le Goncourt, leur professeur, se sont aperçus de sa haute réputation. Alors, voici le témoignage d'un de vos coturnes, un élève de cette époque, Gérard Chey.
Dans le lycée, il n'y avait pas place pour Julien Gracq, il n'y avait place que pour lui, Poirier. Et c'était un enseignant extrêmement rigoureux, très précis, d'une culture et d'une science inouïe. Il faisait cours sans notes, sans une seule note. Le rite était immuable. Deux ou trois élèves, je ne me souviens plus, étaient interrogés au début du cours. Donc on allait successivement à l'estrade, on donnait son cahier, il posait une question, on répondait en deux ou trois minutes, et ensuite, prenez vos cahiers, et le cours commençait par un monologue sans interruption jusqu'à la sonnerie.
À la sonnerie du lycée, vous vous souvenez?
Oui.
Il y avait dans certaines classes à cette époque-là l'histoire représentée au mur comme une frise. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Un continu, un tissu serré, quoi.
Oui, mais là, par exemple, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec le récit là, qui vient d'être fait. Moi, ce qui m'a fasciné dans le personnage de Julien Gracq, justement, peut-être pas Poirier, je sais pas, c'est la façon dont il m'a donné une représentation de ce que c'est que l'histoire, quoi. Mais une représentation qui m'a jamais quitté jusqu'aujourd'hui, quoi. Et cette représentation, c'est l'histoire qui n'a pas de fin et qui n'a pas d'origine. C'est-à-dire une histoire continue, une histoire qui n'est qu'un enchaînement de choses comme ça, mais dont toute la force vient du récit. Or, c'était vraiment Julien Gracq et non pas Poirier qui racontait l'histoire. Parce que c'était un récit où la puissance métaphorique qu'il mettait en scène était extraordinaire, quoi. Et alors le temps continu apparaissait parce qu'il marchait sur l'estrade, il faisait des allers-retours. Et effectivement, quand ça sonnait, il s'arrêtait. On avait même imaginé qu'il s'arrêtait au milieu d'une phrase et que, à la séance suivante, il repartait de ce milieu de la phrase précédente, comme ça, pour continuer indéfiniment. Et en plus, sa voix était d'une neutralité incroyable, si bien que tout ce qui était passionnel dans sa manière de parler était d'une discrétion, d'une élégance, je pourrais dire presque épouvantable, quoi. Parfois, par exemple, on voyait qu'il s'attachait à un personnage de l'histoire. Et à ce moment-là, effectivement, le personnage, c'était plus en relief. Par exemple, Gracchus Babeuf. Moi, je me rappelle de ça. Après, j'ai cherché qui était Gracchus Babeuf, etc. J'ai oublié depuis. Je reviens comme ça.
Chef égalitariste dans le courant de la Révolution française.
On sentait qu'il trahissait une petite passion quoi, pour lui. Et c'était ça, sa coupure par rapport au continuum du temps historique.
Parce qu'il avait eu une jeunesse politique, je dis pas babouviste, mais au moins surréaliste, et puis qu'il a baigné dans le climat des années 30. Voici ce que Julien Gracq, qui se présente comme tel au moment de la parution des Rivages des Sirtes, Goncourt 51, dit du climat de cette époque et de la manière dont il l'a ressenti.
Au fond, on est tout de même, je crois, très marqué par l'époque où on a vécu. Enfin, j'appartiens à mon époque, il m'influence de toutes les façons. Il y a eu certainement une époque là, qui m'a beaucoup marqué, c'était la fin pratiquement de la jeunesse, entre 23 et 30 ans, disons, qui est l'époque, en somme, de la montée de la catastrophe hitlérienne, enfin, qui se situe entre 1933 et 40. Tout de même, j'ai un souvenir extrêmement précis de cette époque et de quelque chose qui était en route. Cette espèce de courant étrange qui pousse à un certain moment, à une masse humaine, vers un événement désiré ou redouté tout aussi bien. À partir du moment où il se produit une certaine accélération.
La masse humaine qui va vers un écueil. Ça me fait penser au titre d'un de vos livres d'autrefois, le désir de catastrophe.
Oui, mais c'est peut-être ça l'ambiguïté de l'événement. Où au fond, il peut y avoir une fascination pour l'événement parce que il y a une attente. Kosselek, par exemple, emploie le mot horizon d'attente. Ce qui est très joli, justement. Il y a cet horizon d'attente, et en même temps, il y a une crainte redoutable de la catastrophe. Mais ces deux aspects apparemment antinomiques de l'événement, ils sont conjugués dans tout événement, quand même. Même dans des événements catastrophiques. Il y a aussi un horizon d'attente de la catastrophe.
Je vais vous proposer une définition idiote de l'événement, c'est quand tout le monde regarde dans la même direction. Je dis ça parce que nous allons entendre un nouveau son, Henri-Pierre Jeudy. Nous sommes face à un événement prédictible. Quantité de personnes sont venues rejoindre le Cap Kennedy en cette année 1969, et des millions et des dizaines de millions d'autres regardent la télévision. Jean-Pierre Chapelle avec Jacques Salbert.
Eh bien, voici le grand événement que nous attendions depuis des mois, ce lancement de trois hommes en direction de la Lune. Et tout de suite, nous allons entrer en liaison avec Cap Kennedy. Jacques Salbert a déjà commencé à nous commenter les images qui arrivent depuis quelques secondes.
On estime à plus d'un million de personnes, tout au moins, ce sont les estimations de la police, à plus d'un million de personnes, le nombre de ceux qui se sont déplacés pour venir jusqu'ici, jusqu'au Cape, assister au départ. Ce qui se passe est parfaitement conforme au timing, à la timetable, à l'horaire, si vous voulez, qui a été établi sur le press kit et qui nous a été remis il y a déjà plusieurs jours, car depuis que le countdown a commencé, depuis que le compte à rebours a commencé, il n'y a eu aucun incident. Les astronautes, tous les trois, sont déjà à bord de leur cabine Apollo 11, qui se trouve en haut de leur fusée Saturne.
C'est toujours avec le Jacques Salbert, je pense que vous l'entendez maintenant.
Allumage à tout jour, vous savez, avant de la fusée grande, on vous fait la fusée solaire. Merveilleux départ, dans des conditions formidables. Le bruit commence à nous parvenir maintenant.
Voilà l'événement qui se déroule dans des conditions formidables, dit le commentateur, puisque il obéit, après le compte à rebours, à tout ce qu'on attend de lui.
Oui, mais cette prédictibilité, en fait, de l'événement, à partir du moment où il est construit intégralement, évidemment, ça pose pas trop de problèmes. Mais ce qu'il y a, c'est que ça indique aussi, enfin, aujourd'hui, surtout à notre époque, comment on vit dans un délire d'anticipation. C'est-à-dire que finalement, on présente l'événement comme quelque chose qui est tellement prédictible qu'il a déjà eu lieu. Dans ce sens, les historiens, par exemple, du présentisme, comme Hartog, dans son livre sur les régimes d'historicité, l'a bien montré, c'est-à-dire que, finalement, l'événement le plus présent, il faut qu'il soit présenté comme un événement déjà passé. Et comme ça, il est parfaitement authentique, réalisé, accompli, etc. Et il répond, Hartog, à la question farfelue un petit peu de Kant, bien que ça se fasse drôle de dire que Kant soit un farfelu, mais que l'histoire se construit à partir d'un a priori de l'événement. Et c'est la question que pose Kant. Bon, ça légitime, aujourd'hui, on est dans une sorte de légitimation même un peu folle d'une anticipation constante qui est telle que, par exemple, on va rendre l'événement mémorable avant même qu'il ait lieu. C'est-à-dire que où on fait de la commémoration à l'envers en permanence, quoi.
Alors le mot commémoration.
Pour moi, la commémoration, elle est décidée maintenant. Bon, on sait bien qu'il y a une hystérie de la commémoration. D'ailleurs, on voit bien aussi qu'on en a marre. Quand il s'agit de 14-18, il y a une lassitude parce qu'il y a trop de commémorations. Mais c'est un état d'esprit, la commémoration. C'est-à-dire que, à la limite, c'est comme si ça donnait une épaisseur de l'histoire qu'on veut conserver par rapport à un vide contemporain du sens du monde, du sens des choses, etc. Donc la commémoration, elle a une fonction politique de conjuration de l'angoisse du temps présent. Et dans ce sens-là, elle est thérapeutique. Voilà, elle a un rôle thérapeutique.
À cet instant précis, d'ailleurs, après avoir peut-être consulté le calendrier des célébrations nationales, vous nous proposez un mois avant le 27 juillet, commémoration de la naissance en 1917 de Bourvil, ceci.
Le temps d'aimer n'a pas seulement le temps de passer, que c'est déjà le temps passé. Le mois de mai n'a pas seulement le temps d'arriver, que c'est déjà la fin de l'été. L'été. Alors prends-le, le temps d'aimer. Alors souris au mois de mai. Tu auras bien le temps après pour le reste. Le temps des jeux et de la gaieté n'a pas seulement le temps de passer, que c'est déjà le temps de pleurer. Alors profite de ta gaieté, de tes folies, des jeunes années. Tu auras bien le temps après pour le reste.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le témoin de ce vendredi, c'est Henri-Pierre Jeudy qui s'interroge comme sociologue, historien, flâneur sur l'événement qui préoccupe constamment l'historien. Si vous avez choisi Bourvil, c'est pas du tout parce qu'il est inscrit au calendrier des célébrations nationales que vous ignorez superbement, mais pour d'autres raisons.
Oui, je pense que c'est cette chanson-là, pour moi, incarne parfaitement le rapport ambigu qu'il y a entre le temps qui passe et ce temps qui ne passe pas. C'est-à-dire que ce temps qui ne passe pas, c'est le temps qu'on ne possède pas non plus, qu'on peut toujours faire des arrêts sur le temps, mais ce temps-là, on peut pas se l'approprier. Et ce temps qui ne passe pas, il prend du relief par l'incursion de la mémoire, par l'impromptu des souvenirs. C'est un temps que, justement, on a la joie de ne pas maîtriser. C'est un temps qui nous file entre les doigts, quoi.
Les historiens utiliseraient volontiers le mot passé. Le passé qui ne passe pas, c'est un titre bien connu sur l'histoire de Vichy. Vous pensez que notre objet historien devrait être le temps plus que le passé?
Oui, je pense aussi que c'est parce qu'on oublie une figure temporelle qui est assez essentielle et qui est présente dans l'idée du temps qui ne passe pas, c'est la simultanéité, par exemple, qui fait que le passé, le présent et le futur sont condensés, subissent des effets de condensation dans les images qu'on peut avoir, dans les souvenirs qu'on peut avoir, etc. Cette simultanéité temporelle, elle a une puissance d'actuel qui est extraordinaire. C'est pour ça, par exemple, dans le rêve, on voit bien comment cette simultanéité temporelle nous réveille. C'est elle qui nous réveille. Parce que tout d'un coup, on croit que c'est là. Justement, c'est là. Ça nous crée cet effet de présence immédiate.
Je ne voudrais pas que nos auditeurs imaginent que vous traitez par le mépris la Grande Guerre, dont vous parliez de manière cavalière tout à l'heure. La preuve, les expériences que vous faites à Verdun, chez Châtelet-Voltaire, vous avez publié plusieurs livres autour des ateliers d'écriture à Verdun, autour de votre fréquentation des élèves de Verdun aujourd'hui. Vivent-ils dans cette même simultanéité?
Je pense que c'est assez proche. On s'est attaché, nous, quand on a travaillé par rapport à Verdun, à l'histoire d'André Breton. Il a soigné des poilus traumatisés et il a été fasciné par la chose suivante. C'est que ces poilus traumatisés déréalisaient complètement la guerre dans laquelle ils étaient enlisés, quoi. C'est comme si ces poilus traumatisés pensaient qu'ils avaient affaire à un simulacre complet. La guerre n'existe pas. À tel point que, par exemple, il y avait il a eu affaire, André Breton, à un poilu qui lui a montré comment il montait en haut d'une tranchée. Et puis, il répétait sans arrêt le bruit, il faisait le bruit des obus. Bzzz, boum, bzzz, boum. Et normalement, il aurait dû, cet individu, enfin ce poilu, être tué, parce que en plus, c'était interdit de sortir de la tranchée. Et curieusement, le paradoxe incroyable, c'est qu'il est resté vivant, et il a cru que la guerre n'avait jamais eu lieu.
Il vous arrive aussi de citer un film de Denis de la Patellière, où on voit, flanqué de Louis de Funès, Jean Gabin, en ancien de la Grande Guerre. Alors lui, c'est pas un traumatisé qui dématérialise, c'est un tatoué qui a la guerre dans la peau.
Je vais vous le montrer, mon dos. La visite est terminée, on ferme.
Merci beaucoup. Il doit être de 1918.
Monsieur, vous faites erreur. 14 juillet 1919, le soir du défilé de la victoire. 11 kilomètres. Et on croyait que c'était la dernière guerre.
Vous connaissez Modigliani?
Oui, il le connaissait très bien.
Non, jeune homme, je ne connaissais personne. Il était 2h du matin, je suis entré au Café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors, il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit, je veux te tatouer une femme dans le dos. Oh. Oui, monsieur, et je me suis couché sur le billard.
Oh.
Oui, monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef-d'œuvre. Oh. Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à sept flammes.
Oh là là.
Oui, mon petit. Oh. Oui, mon petit. Oh. Oui.
Simultanéité, parce qu'il y a l'expérience du défilé de la victoire et l'expérience intime du tatouage par Modigliani du dos de Jean Gabin.
La symbolisation par rapport au corps, cette symbolisation, elle est bien le fruit des images d'une simultanéité temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui donne une image du temps. Comme si cette simultanéité pouvait se perpétuer indéfiniment, mais elle a évidemment plus aucun sens par rapport à toute organisation chronologique du souvenir, de la mémoire, de l'inscription mnésique sur le corps, par exemple.
Il y a tout de même quelque chose qui est prévisible, c'est notre mort, votre mort, Henri-Pierre Jeudy. Voici un village de France où Émile Gautier, célibataire et retraité, c'est une expérience qui va vous intéresser, qui doit être proche de celle dont vous rêvez, veut organiser son enterrement prévisible.
Je suis venu vous commander ma cérémonie d'enterrement.
Quoi?
Mais vous voyez, je n'ai pas de famille. Et pour tout vous dire, j'ai fait cette nuit un rêve où j'étais enterré sans tambour ni trompette. Alors je voudrais un bel enterrement de première classe.
Je vais vous montrer les emplacements qui sont libres.
Et là, dans l'allée centrale, c'est...
Ah, là, c'est très passant. Ah, vous aurez des visiteurs.
Je voudrais vous demander autre chose, également. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aux enterrements, quand on met le cercueil dans le corbillard, on entend parfois le corps naviguer dans la boîte. Alors, pour éviter cet inconvénient, je voudrais que vous preniez mes mesures pour le faire à ma taille. Exactement.
Tout prévoir, exactement. Paul Crochet, dans la première grande réalisation télé d'Hervé Ballet, qui a eu quelques échos dans le village qu'il décrivait et qui était le sien. Vous avez rêvé à ça, vous, l'organisation de votre enterrement, de l'événement de votre enterrement?
Le rêve d'assister à son propre enterrement, c'est pas du tout macabre. Il y a toute une dimension futuriste. Mais je suis pas le seul. Enfin, je pense qu'on peut penser à un moment donné qu'on passe de l'autre côté, du côté de la mort, et que de toute façon, on revient. Et semblant, on revient pas non plus n'importe comment.
Mais aller en cortège de sa maison au cimetière de votre village en Haute-Marne, c'est à vous dégoûter des enterrements, parce que le cimetière, s'il y a bien un événement aujourd'hui, c'est la transformation des pratiques funéraires et la transformation des espaces funéraires. Qu'est-ce qui se passe dans le cimetière de votre village?
Là, je vais réagir en vieux ringard, ça c'est sûr. C'est-à-dire que dans les villages, tout s'est transformé aujourd'hui en décors patrimoniaux. C'est des petits décors, comme des décors de théâtre. Partout, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment... enlisé jusqu'au cou dans le patrimoine. Et tout d'un coup, on s'attaque au cimetière pour mettre de l'ordre.
Ce qui est contradictoire.
Ah bah complètement, ouais.
Et qu'est-ce qu'on dit dans votre village?
Face à l'usure du temps et à la dégradation progressive des tombes, il est nécessaire d'intervenir maintenant, etc. Ça veut bien dire que c'est une dimension qui n'a rien à voir avec le patrimoine, qui est vraiment l'inverse, qui est que il faut moderniser le cimetière parce que effectivement, en fait, il y a de la place, il y a assez de place. Il y a plus personne de toute façon, donc il y a de la place pour les morts. Il y en a même trop de place. Donc ça sert à rien de remettre de l'ordre, soi-disant, dans un cimetière.
Puis, alors que rien n'est plus intéressant, ça peut être ma dernière question, que la ruine et la trace.
Je pense que les ruines et les traces symbolisent très très bien par leur vivacité, justement par le fait que c'est pas macabre du tout, symbolisent bien le temps qui ne passe pas. Mais ce temps qui ne passe pas, il est infini, en fait. C'est pas l'éternité, mais c'est quelque chose qui nous laisse dans un état de perplexité par rapport à l'accélération aujourd'hui du temps, l'accélération de l'histoire, etc. C'est exactement l'inverse, quoi. Ça donne au fond quand même une épaisseur incroyable à l'histoire et une épaisseur incroyable aussi à la conception qu'on peut avoir de l'existence, quoi.
Coup de neuf sur la notion d'événement avec vous. Henri Pierre, jeudi, donc le chapeau fossilisé et précédemment la zigzagure, encore dans une maison d'édition au nom énigmatique.
La lettre volée, oui. Ouais, enfin, elle n'est pas si énigmatique que ça.
Merci à vous, cette émission a été préparée par Frédéric Martin et Franck Olivard, avec à la technique Maxime Ingrand et à la réalisation Valérie Aestaray.